Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles à livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 52. Nous allons avoir une série de trois messages en vue de Pâques. Donc il nous reste trois dimanches jusqu'au dimanche de Pâques. Et donc le thème sera un peu le Christ ou Jésus rejeté, mais aussi Jésus élevé par le Père. Et chaque fois nous verrons cela. Aujourd'hui nous voyons l'évangile de Jésus-Christ selon Ésaïe le prophète. Donc tout ce message. Dimanche prochain ce sera ce qui est appelé le dimanche des rameaux. Et nous verrons Jésus qui vient dans la ville de Jérusalem et puis finalement il se présente mais il est rejeté et il sera crucifié. Et puis le dimanche de Pâques, eh bien, nous verrons Jésus ressuscité. Donc ici nous sommes dans Ésaïe chapitre 52 et nous allons lire à partir du verset 13. Sachez que ce passage est dans le texte original, dans hébreu, donc en hébreu, est poétique, hein, donc c'est un poème, même un chant avec des strophes et des vers, et que jusqu'au XIIe siècle, les rabbins juifs considéraient ce passage comme messianique. Mais à partir de ce moment-là, hein, donc au XIIe siècle, ils ont commencé à attribuer cela aux souffrances du peuple d'Israël. Ils ont dit le thème c'est la souffrance d'Israël. Ce qui est un peu difficile à justifier, surtout que quand il s'agit de celui dont il parle ici, meurt pour expier le péché. Donc c'est une pensée qui n'est pas ailleurs dans la Bible, que le peuple d'Israël souffre pour expier le péché. Et puis quand il est dit que celui ici souffre injustement parce qu'il n'a pas commis de péché, et cela ne peut pas être dit concernant Israël, qu'ils n'ont pas commis de péché et que leur souffrance est injuste. Donc, bien sûr, nous comprenons que ce passage fait référence au Messie serviteur, donc Jésus-Christ. Donc, ayant ces pensées-là, nous allons lire donc ce passage. Donc Ésaïe 52 à partir du verset 13 et nous lirons tout le chapitre 53, hein, puisque c'est une continuité de pensée. Donc Ésaïe 52 et verset 13, il dit « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien très haut, bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour le coupable. Voilà, Ésaïe écrit 700 ans avant la venue de Christ. Et lorsque nous connaissons le récit de la mort de Christ, eh bien, nous sommes étonnés comment il a pu exprimer ces choses, ce qui confirme l'inspiration et l'œuvre de Dieu. Le ministère de Christ est progressivement révélé ici, déjà par le fait qu'il est appelé serviteur, il n'est pas venu en tant que conquérant, puissant, roi, et c'est un peu pour cela que le peuple d'Israël ne l'a pas reconnu, parce qu'ils attendaient un roi puissant qui allait les délivrer de l'Empire romain, mais il est venu dans l'humilité, dans une étable, et puis un homme tout ordinaire, fils de charpentier, et ils ne l'ont pas reconnu. Mais maintenant, nous pouvons regarder en arrière, nous voyons qu'il est déjà appelé le serviteur. Ou serviteur ou esclave, connaissant les statuts du serviteur à l'époque. C'est un autre détail, c'est que ce passage, c'est le passage qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Hein. Il y a à peu près 41 différents endroits où ce passage est cité, qui est cité plus que n'importe quel autre passage. C'est un passage clé quand on fait référence à Jésus-Christ. Et ce sont les différents apôtres qui font référence, et même Jésus-Christ lui-même en a fait référence. Même si je regarde dans Matthieu chapitre 8, là rapidement, c'est Jésus qui en parle, hein. Matthieu chapitre 8 et au verset 16 et 17, je commence à lire au verset 14, nous dit Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et la servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa des esprits par sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donc bien sûr, nous avons, et je pourrais donner toute une liste de références dans Marc, dans Luc, dans Jean, dans les Actes des Apôtres et dans 1 Pierre, où justement il fait référence à ce passage-là. Et il dit qu'il s'agit de Jésus. Et comme notre coutume, c'est toujours de prendre la Bible littéralement et puis de la comprendre et de l'interpréter. On interprète la Bible par la Bible et non par les pensées de notre époque ou les pensées que nous pouvons avoir. Donc ce que nous avons ici, c'est surtout un Messie, et j'ai employé le mot le Messie inattendu, dans le sens que quand il est arrivé, on ne l'a pas reconnu, on ne se rendait pas compte que c'était lui, mais inattendu, parce que la forme, sa présentation n'était pas ce qu'il recherchait. Il pensait à autre chose. Et donc, c'est le Messie inattendu, mais c'est le Messie promis. Et dans le chapitre 42, là, juste les trois versets, les trois derniers versets du chapitre 52, je veux dire, eh bien, nous avons le Messie serviteur qui est là pour la nation Israël. Il nous parle de son apparence au verset 14, il nous parle de son élévation au verset 13, et il nous parle de son message au verset 15. Nous allons prendre ces versets à la fois et commencer par le verset 14, donc son apparence. Il nous dit de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui du Fils des hommes. Ce n'est pas qu'il ne ressemblait pas à un homme, mais lorsque vous lisez le récit de sa crucifixion et ce qu'il a subi, eh bien, il n'est pas étonnant qu'il soit devenu méconnaissable. Tant son visage était défiguré. Peut-être certains d'entre vous avaient vu ce film « La Passion de Christ » par Mel Gibson. Et il a essayé de montrer l'aspect physique de la souffrance de Christ. En tous les cas, on ne pouvait pas montrer autre chose, mais l'aspect, le côté physique, et c'est sûr que ce n'est pas beau. Et ici, il nous dit carrément, hein, il dit, il était défiguré et était au point qu'il était méconnaissable. Et nous pouvons comprendre cela lorsque nous voyons et nous nous souvenons que déjà quand Jésus a comparu devant le Sanhédrin, l'assemblée des religieux d'Israël, et bien même pendant l'interrogation, ils lui ont giflé. Après, ils l'ont condamné, et quand ils l'ont condamné, alors il y en a qui sont profités pour le donner des coups de poing, pour le souffleter. Et puis ensuite, il a été emmené chez Pilate, et Pilate l'a interrogé, et puis il a dit « je ne trouve rien en lui », mais pourtant, bon quand même, pour plaire au peuple, eh bien il va le condamner. Et de là, il va être, bien sûr, les soldats romains vont le récupérer. Et puis là encore, ils vont le battre de verge, et puis ils vont le couronner d'une couronne d'épines. Et comprenez que quand ils l'ont mis cette couronne, c'était pas pour que ça soit confortable, hein, c'était vraiment. Et eux, ils voulaient le traiter comme un criminel. Et donc même avant d'arriver à la croix déjà, eh bien, il était déjà toute la nuit. Il a été maltraité, et puis sans parler de la souffrance de la croix. Hein, donc il avait passé une bonne partie de la nuit dans la prière, dans le jardin de Gethsémané. Il a fini la nuit avec le Sanhédrin. Tôt le matin, il est chez Pilate. Et puis ensuite, après, il y a le traitement des soldats qui se moquent de lui. Et ensuite, il doit porter sa croix. Et puis ensuite, il est mis en croix. Et bien sûr, tout cela, eh bien, c'est pas étonnant ce qu'il nous décrit ici. Il nous dit même dans le chapitre 50, verset 6, il dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Hein, » c'était Ésaïe 50, verset 6. Et même au verset 7 d'Ésaïe 50, il dit « C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. » Devant la souffrance, c'est là où on se pour supporter, et bien après, il n'y a plus d'expression, il va de l'avant. Hein, Jésus était parfaitement homme lorsqu'il a subi tout cela. Il a ressenti tout ce qu'un homme peut ressentir dans cela. Et le rejet total, c'est vraiment... Il n'a pas été traité comme un humain, c'est la haine qui s'est exprimée là. Et donc lui, dans son corps, eh ben, il porte toute l'expression de la haine qu'on pouvait avoir pour lui. Tellement on n'avait pas compris. S'ils n'avaient seulement pas compris et juste dire bah, « c'est du n'importe qui » ou « c'est un fou » ou n'importe comme ils l'ont dit, c'est une chose, mais en plus de de le traiter de cette manière, c'était pas normal. Hein. C'était, il devait forcément avoir quelque chose derrière tout cela. Et bon, nous avons une idée. Hein. Celui qui a essayé de le tenter dans le désert après les 40 jours de jeûne, celui qui a essayé de le tenter plusieurs fois, eh bien, c'est lui qui est derrière tout cela. Et non seulement est-ce qu'il est, il y a cette souffrance, mais aussi cette humiliation. Lorsqu'au chapitre 53 et verset 3, eh bien, il n'est pas étonnant qu'on dise de lui qu'il est semblable à celui dont on détourne le visage. Et c'est vrai que même en lisant dans les récits de l'Évangile, nous dit que les gens partaient en se frappant la poitrine devant ce qu'ils venaient de voir, ce qui avait été témoin de ces choses. C'est au 53, verset 12, chapitre 53, verset 12, il nous dit « C'est pourquoi il donnera sa part avec le grand, il partagera son butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour coupable. » Donc il a supporté cela. Il a été méprisé. Il nous dit qu'il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Hein, c'est au verset 2 du chapitre 53. C'était comme une souche qui avait été coupée. Puis après, il y a un rejeton qui apparaît. Mais le lieu est désert et il n'y a rien d'extraordinaire. Il avait, son attraction, et c'est un peu les artistes, depuis, ils ont essayé de présenter un Jésus beau, tout cela, mais c'est pas par sa beauté physique qu'il a essayé d'attirer le regard, mais c'est plus par son dévouement, sa vie, et c'est cela qui met en valeur. Nous sommes dans une société maintenant où tout le monde essaie d'être le plus beau possible, de rester jeune le plus longtemps possible, de paraître jeune le plus longtemps possible. Et on vend toutes sortes de choses et on dépense énormément pour se conserver, comme si c'était ce qu'il y a de plus important. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Hein, est-ce que je suis heureux dans mon corps? Est-ce que je suis à l'aise avec moi-même? Est-ce que j'ai trouvé cette paix, ce confort intérieur? C'est ça qui importe. Et donc Dieu n'a pas essayé de nous tromper en nous donnant un Jésus fort et musclé et athlétique et puis qui a encaissé la souffrance sans le ressentir. Non, non. Il a dit c'est pas là. Mais il y avait une force intérieure qui l'a permis d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Et oui, peut-être que nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et il est mort au nom des malfaiteurs, avec les brigands, au rang des brigands. Et voilà ce qu'on a pensé de lui. C'est ce qu'on a fait. Mais, vous savez, encore je souligne, le Messie serviteur, on l'a rejeté. Et ce n'est pas seulement qu'on l'a rejeté, mais on l'a rejeté avec violence. Et ce n'est pas sûr, il ne faut pas... On va pas accuser le peuple juif de l'époque, hein, parce que c'est pas sûr qu'il serait mieux reçu aujourd'hui, hein, vu la manière dont les gens parlent de Christ maintenant et la manière dont on fait référence à la Bible et l'enseignement de Christ, je suis pas sûr qu'il serait mieux reçu aujourd'hui. Hein. Et peut-être que nous-mêmes, nous savons ce que nous avons pu penser à une certaine époque et ce qu'on a pu dire, mais il est venu quand même. Ce qui est extraordinaire aussi ici, c'est que pour du point de vue culturel, hein, c'est que dans l'Ancien Testament, on ne connaissait pas la peine de mort par la crucifixion. Ça n'existe pas, on n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. C'était pas dans la pensée. La loi de Moïse avait institué une peine de mort, mais par lapidation. Mais ici, bien sûr, quand on lit ici, ce n'est pas une question de lapidation, d'une mise à mort par lapidation. Et lorsque nous lisons le psaume 22, hein, donc le psaume 22, donc un psaume de David, qui a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ. Le psaume 22, il y a une description, carrément une description de ce que Christ a vécu. Maintenant que vous connaissez les détails de comment les choses se sont passées, eh bien laissez-moi vous lire quelques versets de ce psaume 22. Ça commence par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et tu n'as point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver, non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Dans un sens, et ils disent, recommande-toi à l'Éternel, et l'Éternel te sauvera, il te délivrera, puisqu'il t'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, et tu m'as mis en sécurité, en sûreté, sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont au cours de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi la gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent, ce qui n'arrive pas dans une lapidation, mais qui arrive dans une crucifixion. Les os sont déboîtés parce qu'ils sont suspendus là, surtout au moment où la croix, parce qu'ils sont cloués sur la croix, et puis ensuite la croix est levée et elle tombe dans le trou. Et quand il y a ce moment-là, c'est là, à ce moment-là, que les os se déboîtent. Il dit, tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire au fond de mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Chiens, c'était tout, il parlait toujours des païens. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ce qui n'arrivait pas durant une lapidation. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique, ce qui est arrivé à Christ. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Voilà, et ce sont des choses qui existent, mais c'est ce que je veux souligner, c'est le fait que Christ soit venu de la part de Dieu, mais il a été rejeté. C'est le Messie, il est promis, il a été promis déjà la première fois à l'époque de Moïse, 1700 ans avant Jésus-Christ, et puis ensuite il y a ces rappels au fur et à mesure, et on peut en trouver d'autres dans les dernières prophéties de l'Ancien Testament, il est rejeté, parce qu'il n'est pas ce qu'on veut. Hein. Je me demande si aujourd'hui, si on prenait on faisait un référendum en France, disons en France, puisqu'on est là, et puis on demandait aux gens de décrire le Jésus qu'ils voudraient. Et alors on leur donne plusieurs possibilités, puis ils choisissent. Je me demande ce qu'on choisirait. Et vu les tendances et les modes, certainement qu'ils seraient obligés de ressembler soit à un athlète, soit à une star, ou soit à quelque chose, ils seraient obligés pour être approuvés. Mais est-ce que c'est ce dont on a besoin, hein? C'est ces gens qu'on met en valeur aujourd'hui à la télé et qui sont là pendant quelques années. Puis ensuite, en général, ils ont une fin, une mauvaise fin. Hein? Donc, c'est pas ce que Dieu veut présenter. Et ce n'est pas une question de nous donner ce qu'on a envie d'avoir, c'est une question de nous donner ce dont on a besoin. Et là, Dieu, dans sa grâce, ne nous donne pas ce qu'on veut, mais nous donne un sauveur. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on va voir pendant ces trois, c'est que, en étant rejeté et en étant crucifié, Eh bien, par ce moyen, il devient notre sauveur. Hein? Dieu se sert de la méchanceté de l'homme pour accomplir ses desseins. Et donc, mais malheur à celui par qui c'est réalisé. Donc, je reviens à Ésaïe 52, et puis au verset 13, il dit quand même, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Alors que nous venons de voir le serviteur souffrant et humilié même dans sa mort, c'est ça qui est une chose terrible, c'est une chose c'est quand les gens sont, manquent de respect et sont violents, même dans la mort d'une personne, dans la souffrance et les derniers jours d'une personne, c'est vraiment une expression de haine. Et sa mort est honteuse et il est mis au rang des brigands et puis son corps est enterré non loin de l'endroit où il est mort. Mais vous savez, il n'est pas resté mort. Mais il a prospéré. C'est-à-dire, et il a été élevé bien haut. Hein, Jésus-Christ est mort, réellement mort. Je crois que c'était pour ça qu'il était obligé de rester 3 jours dans la tombe. C'est pour pouvoir vérifier hein, qu'il était réellement mort. C'est ça qu'on avait dit de Lazare. Il dit, mais ça fait plusieurs jours qu'il est dans la tombe. Hein. C'est une manière de dire, il est réellement mort. Hein, parce que sinon, il y aurait des gens qui viendraient pour dire, oh, mais peut-être il était évanoui, peut-être ceci, cela. Et toujours, j'ai des gens qui sont, ils sont prêts à croire différentes choses. Mais vous savez, il nous dit dans Colossiens chapitre 2 et au verset 15 que autant le fait que Jésus soit mort peut paraître comme un échec hein, sur premier abord et surtout lorsque nous regardons à la manière dont les hommes évaluent les choses, hein, c'est un projet qui se termine de cette manière-là, eh bien serait appelé un échec de nos jours. Hein. Mais regardez comment il nous décrit cela dans Colossiens chapitre 2 et au verset 15, mais je vais commencer au verset 13, hein, le début de la phrase. Donc de Colossiens chapitre 2, verset 13, il dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, donc, ou la condamnation, le jugement, hein, dont on était, et dit, il a effacé, donc il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Hein, donc ce jugement, ce casier judiciaire qui était contre nous, eh bien, il a été détruit à la croix. Et verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, ce qui pouvait paraître comme un échec et comme une victoire de l'homme méchant, finalement, ça a été transformé et pour Jésus-Christ, c'était une victoire. C'est parce que c'est par elle qu'il a vaincu la mort, comme le frère disait tout à l'heure, et c'est par cela qu'il a vaincu, il dit, des dominations et les autorités, c'est les puissances maléfiques dans le monde, et bien c'est là où il a remporté la victoire, et c'est par la croix. Et vous savez, c'est intéressant de voir comment Jésus à évaluer cette chose et dans sa prière de Jean chapitre 17, dans sa prière au Père, hein, donc il parlait à personne d'autre, il parlait à son Père, et c'est dans sa prière qu'il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il dit donc « Tu m'as donné une mission, je suis venu et j'ai accompli cette mission. » Donc ce qui pouvait apparaître chez les hommes comme un échec et comme la réussite du mal, Et c'est l'impression qu'on a souvent aujourd'hui. On regarde autour de nous, on lit les papiers, on dit mais c'est le méchant qui réussit, c'est la haine qui réussit, on a vraiment cette impression. Mais vous savez, les impressions ne sont pas toujours justes. Et là, à l'époque de Christ, on a pensé que c'était son. Et même les disciples, ils étaient convaincus que c'était terminé, ils ont été se retirer, se cacher. Mais Dieu dit, non, non, c'était là la victoire. C'était là la réussite. C'était là, et Jésus a dit, j'ai accompli l'œuvre. Et c'est ce qu'il a pu dire sur la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout ce qui a été prédit par les prophètes, tout ce qui a été prévu, tout s'est réalisé comme il le voulait et au jour où il le voulait. Et non seulement est-ce que Jésus est ressuscité de la tombe et qu'il est revenu, mais il est revenu à ses disciples avec un corps transformé. Parce que quand il est apparu aux disciples, ils étaient enfermés, tout était fermé, et puis tout d'un coup il apparaît dans la pièce. Et donc il avait un corps autre, comme il a été lu dans 1 Corinthiens 15 tout à l'heure, après la résurrection, on a un autre corps, d'une autre nature. Mais pendant que le frère lisait ça, il disait, ce qu'on enterre, c'est pas ce qui revit. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir quand on veut semer des patates, vous voyez les patates qu'on sème. Vous avez été là où ils vendent les graines et tout ça, et vous regardez les patates qu'ils vous vendent pour semer. C'est pas beau du tout. Vous ne ferez jamais des frites avec. Mais c'est ce qu'on met dans la terre. Mais après, si vous voulez voir ce que ça donne, vous allez vous acheter les nouvelles pommes de terre. C'est du joli. Ce qui a été semé, c'est pas ce qui réapparaît. Et vous savez, tous, on est un peu mal fichus d'une manière ou d'une autre. Bon, les plus jeunes, peut-être encore, ils sont en bon état, mais et puis avec le temps, mais vous savez, à la résurrection, c'est pas rien que pour faire, c'est dire, ah, ben, c'est bien d'avoir des pensées pareilles, parce que ça fait du bien, ça relève la morale. Non, non, mais c'est une réalité. Et Paul a dit, mais regardez dans la vie, ça se passe devant vous tout le temps. Et celui qui l'a mis en place, c'est celui qui va s'occuper de vous. Vous dites, oh, ben, c'est gentil de penser comme ça. Non, mais c'est, en plus, c'est vrai. Jésus-Christ, il suffit de regarder à Jésus, les disciples étaient là, et pas dire qu'ils étaient prédisposés à croire. Il suffit de lire, voir ce que Thomas a fait, et on voit très vite qu'il n'était pas prédisposé à croire. C'est pas parce qu'il était disciple de Jésus-Christ et parce qu'il avait vu Jésus-Christ qu'il était programmé pour croire que Jésus ressusciterait. Non, il a dit, moi, si je touche pas, si je mets pas ma main dans le trou, dans son côté, je ne le crois pas. Il n'était pas prédisposé à croire. Mais il a cru. C'est quelqu'un qui n'a pas trop d'idées préconçues, bon, on arrive à lui faire croire des choses, mais celui qui n'a pas du tout, il n'est pas, et qui fait un changement de pensée, eh bien, c'était une réalité. Il a vu réellement qu'il était transformé. C'était des témoins qui n'étaient pas prêts. Préparé. Et donc, Jésus, dans un sens, ce qu'on peut voir dans ce passage, c'est qu'il est passé d'un statut où il était le plus humilié de tous les hommes, et il est passé à un statut où il était élevé au-dessus de tout nom. C'est ce que nous voyons dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, il nous parle et de l'humiliation de Christ et de sa glorification. Philippiens chapitre 2, et je commence à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Il nous dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, une même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà la leçon. Maintenant, il nous donne l'exemple. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée ou comme quelque chose à retenir à tout prix d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, donc de certains attributs pour pouvoir devenir homme, et en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, donc il est passé du statut le plus bas possible, de son statut divin et glorieux, il a mis de côté sa gloire, il est devenu homme, parmi les hommes, il a été parmi les plus humbles, et donc il a vécu dans la pauvreté, il a pu dire les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, pour vous donner une idée de son statut. Hein, il aurait à l'époque, s'il était à notre époque, il serait en HLM. Mais, et voilà, mais pas seulement cela, mais il descend en plus, il est compté parmi les pécheurs, et il meurt de la plus horrible mort, la croix. Mais il dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, tout genou, ceux qui le veulent ou ne le veulent pas, dans les cieux et sur la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'apôtre Paul, lui, il était contre Jésus et il voulait détruire tous ceux qui étaient pour Jésus. Et il était motivé par cet intégrisme de son époque et il mettait les chrétiens, les premiers chrétiens en prison et tout cela. Mais ensuite, il a eu la vision de Christ, il a rencontré Christ et tout d'un coup, tout a changé. Lui, il a changé d'orientation. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte que le Jésus de Nazareth qu'il imaginait, qu'il avait vu et c'est tout ce qu'il savait, il s'est rendu compte qu'il a été réellement élevé dans la gloire. Le Messie qui a été rejeté, il nous dit dans Jean chapitre 1, il nous dit et il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il est rejeté par les siens, mais il nous dit il a été élevé au plus haut point. Il nous dit que dans Ésaïe 53, 13, il a dit il montera et il s'élèvera bien haut. Un nom au-dessus de tout nom. Et puis rapidement, on voit son message, verset 15, il dit de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Après avoir vu ce qu'il est devenu, le peuple va rester bouche bée. Comment de cette humiliation-là, tout d'un coup, il se trouve glorieux, hein? Actes chapitre 2, verset 33, lorsque Pierre, le jour de Pentecôte, il se lève et prêche dans les rues, il dit, vous savez, celui que vous avez crucifié, eh bien, c'était le Christ. Vous l'avez rejeté. Et puis, vous avez concocté sa mort avec Hérode et avec Pilate, deux hommes terribles. C'est avec eux que vous avez travaillé. Et vous avez pensé faire l'œuvre de Dieu en vous servant d'hommes pareils. Mais Dieu a élevé cet homme, il l'a ressuscité des morts. Et vous savez, quand Pierre prêchait, parlait de cette manière-là, et quand les gens se sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait, ils sont là et puis ils ont dit, « Frère, homme, frère, que ferons-nous ?» Il a dit, « Repentez-vous. » Il dit, « Peut-être dans votre ignorance, vous avez dit des choses, et dans votre ignorance, vous avez eu des comportements, parce que la manière dont on vous a programmé, par la manière dont les réflexions que vous avez entendues, sans lire la Bible, et par ce que vous avez entendu de ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ, eh bien, vous êtes fait une image de lui, et que, bien sûr, cette image que vous avez de lui, bien sûr que vous ne pouviez pas l'accepter, je vous comprends. Mais lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons qui il est réellement, eh bien, tout d'un coup, on se dit, « Ah, j'ai fait une grosse gaffe. » C'est autre chose. Et La seule chose à faire, c'est ce que Pierre a dit. Il a dit, repentez-vous. Et vous savez, il dit, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Romains chapitre 3, verset 17. Mais regardez avec moi dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15. Et je lis les versets 22 et 20 et 21. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, et voilà la citation qui vient de Ésaïe 53, « Ceux à qui il n'y avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » L'apôtre Paul se réjouissait parce que finalement ça a été annoncé, et je vous le relis ce passage, il dit « De même, il sera beaucoup de joie, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » Et pour nous, ça ne nous arrête pas, là on lit ça, on dit « Bah oui, très bien. » Mais il faut comprendre qu'à l'époque d'Israël, à l'époque où Ésaïe parlait, le peuple d'Israël se croyait être le peuple de Dieu, le seul que Dieu voulait. Hein? Et donc il ne parlait jamais de « peuple » au pluriel. Mais il parlait seulement de eux, le peuple de Dieu. Mais ici, il annonce, en parlant de Christ, il dit mais que Christ viendra, eh bien, il sera un sujet de joie pour beaucoup de peuples. Et donc, l'apôtre Paul se réjouissait, lui, en tant que l'apôtre des païens, du fait que le message était pour toutes les nations. Hein, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Hein, donc, Christ est venu et par sa mort, et c'est ce qui avait été dit à Abraham hein, lorsqu'il a offert son fils, il a dit « Toutes les nations seront bénies en toi ». Et donc là, Dieu avait un plan extraordinaire et par le peuple qui rejette Christ, eh bien Christ deviendra un sujet de joie pour tous les peuples. Hein. Et vous savez, c'est difficile de défaire l'œuvre de Dieu. Hein. Et on peut, dans un sens, essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne freine pas. Hein. Pour nous, les bâtons dans les roues, ça nous freine. Mais pour Dieu, on lui met des bâtons dans les roues, il dit « Ah ben, ça m'arrange !» Et il s'en sert. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là où on parle de la souveraineté de Dieu. C'est le fait de pouvoir laisser les hommes libres de faire ce qu'ils veulent, hein, ce qui est extraordinaire. Vous ne connaissez aucun dictateur sur Terre qui laisse les hommes libres de faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu, qui a la puissance, eh bien, il laisse les hommes libres de faire ce qu'ils veulent. Libre arbitre, c'est ça qui est extraordinaire. Dieu croit au libre arbitre plus que les hommes ne croient. Hein. Et nous laisse faire, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, et puis il suffit de regarder, lire le journal pour voir que tout est possible. Mais en laissant faire, mais il accomplit son plan. Pour nous, le choix est de se joindre à lui ou de ne pas se joindre à lui, c'est tout. Mais il dit, faites ce que vous voulez. Mais après, il faut assumer, c'est tout. Et donc, Jésus-Christ, non seulement, donc il est venu, il est mort, mais il n'est pas mort comme on dirait, tel est décédé, mais lui, il est mort, mais il est mort pour en sacrifice pour nos péchés. Il nous dit, il sera pour beaucoup de peuples le sujet de joie. Et il nous dit aussi que je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, 1 Corinthiens 15, 3. Il est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour les siens, il est mort pour nos péchés. Et vous savez, et il est impossible pour nous de vraiment accepter cette réalité, le fait qu'il a été rejeté et qu'il est devenu le sacrifice pour nos péchés, sans croire qu'il est mort. Il y a des religions aujourd'hui qui ne veulent pas reconnaître sa mort, ou des gens sans religion qui ne veulent pas reconnaître. Mais il faut d'abord reconnaître sa mort, après comprendre pourquoi il est mort, et il est mort pour mes péchés. Donc je dois reconnaître que je suis pécheur devant Dieu, peu importe ce que je pense de moi-même. Vous savez, vous allez en justice, c'est très, très rare où vous trouvez le coupable qui dit « Moi, je suis coupable, mettez-moi en prison, pire que ça, mettez-moi en prison et jetez la clé. » Ça n'existe pas. Chacun dit « Non, mais c'est pas ma faute. » Chacun essaie de se justifier. Mais lorsque l'on vient devant Dieu, eh bien, on doit reconnaître que devant lui, on n'est pas juste. Et qu'on est coupable. La question c'est, mais il n'y a rien à craindre. Je comprends pourquoi une personne qui se trouve dans la justice des hommes essaye de se justifier du mieux possible pour alléger la peine et pour s'en sortir, je comprends. Mais vous savez, avec Dieu, si je ne le reconnais pas, j'aurai ma peine. Mais si je reconnais ma faute, il dit, je te pardonne. Puisque maintenant tu reconnais ta faute, je te pardonne, parce que Jésus-Christ est mort. Donc on risque rien avec Dieu de reconnaître notre péché. Seulement il faut venir reconnaître, confesser notre péché, et il dit, écoute, c'est payé, c'est réglé, tu es pardonné, lève-toi, viens vers moi, je te veux comme enfant. Et je veux être pour toi un père. Vous savez, ce qui était extraordinaire, c'est dans l'Ancien Testament, avec la loi de Moïse, c'est toujours le berger qui a amené la brebis, et si elle, la brebis qui mourait pour le berger, pour le péché du berger. Mais dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est le berger qui meurt pour la brebis. Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et vous savez, certains... Ce que nous voulons voir, c'est que Dieu, poussé par son amour, eh bien, offre sa grâce à tous, afin que quiconque croit. C'est ça le verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Il n'a pas dit seulement les petits pécheurs ou les gens avec des petits péchés seulement, des péchés blancs, je ne sais pas d'où ça sort ça, mais... Comme s'il y avait des péchés noirs aussi, des péchés gris, et puis des péchés... Alors, c'est rien, hein. Pour Dieu, il y a péché, péché, c'est péché, c'est tout. Je vous donne un verre d'eau. Je dis, le verre, il n'y a que un peu de saleté dedans, pas grand-chose. Ou je vous dis que le fond, c'est de la terre. Mais c'est pareil pour vous. L'eau, elle n'est pas propre, c'est tout. Et on est exigeant pour nous. Après, on s'étonne que Dieu, qui est saint, ne soit pas exigeant vis-à-vis de nous. Mais connaissant son exigence, connaissant ses attentes, eh bien, il a fait le sacrifice maximal. Il a offert son Fils, qui est mort pour nous. Il a d'abord cherché à satisfaire sa propre justice. Et répondre à son propre amour. Et sa souveraineté, Dieu, dans sa souveraineté, il est là pour réaliser son plan et assurer la préservation de son plan. Donc Jésus-Christ a souffert pour nos péchés. Oui, la mort lui a été infligée par les hommes. Mais vous savez ce que Jésus a dit concernant cela, et je termine avec cette pensée. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, donc la veille de sa crucifixion, il était en prière là, vous savez, il dit « Non pas ma volonté mais la tienne » et puis il est là. Mais vous savez ce qu'il a dit? Il dit « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» C'était pas le peuple qui lui donnait à boire une coupe de souffrance et qu'il a bu jusqu'à la lie, mais pour lui c'était la coupe de son Père. Il a dit, donc c'est la coupe de mon Père, c'est celle qu'il m'a préparée, qu'il m'a donnée à boire, je la boirai. Et vous savez, c'était cette mort de Christ. Oui, peut-être ça a manifesté la méchanceté de l'homme et le rejet de l'homme. Mais en fait, c'était le plan de Dieu. Et qui nous est donné déjà avec Ésaïe le prophète, et qui est vrai, et encore pour nous aujourd'hui. Et c'est là la question avec laquelle je me retrouve ce matin, c'est oui, il a été rejeté, et peut-être que je l'ai rejeté aussi pendant un temps. Mais maintenant, est-ce que je me repens et je le reçois? Et je reçois Jésus-Christ et je l'élève comme il a été élevé par le Père, que dans ma vie quotidienne, il soit élevé. Je n'ai pas honte de porter son nom. Hein, que quand je dis que je suis chrétien, c'est parce que je vis comme un chrétien doit vivre et non pas parce que je m'appelle d'un nom biblique. Que le Seigneur nous aide et nous allons prendre quelques instants et que chacun médite un petit peu sur ce que ces vérités veulent dire pour lui. Pour l'un, ça va être un rappel à venir et régler des choses avec le Seigneur. Pour un autre, ça va être une expression de reconnaissance et dire « Merci Seigneur, tu as si bien fait les choses, aide-moi à vivre pour toi ». Que chacun dise en fait ce qui remonte de son cœur, ce que l'Esprit de Dieu aurait pu dire, et puis je terminerai par la prière.